Vous êtes sur RTL.
RTL.
Bah rien, saumon grillé pour la 2.
Le journal inattendu.
Donc c'est une cuisine de produits avant tout. Le produit est maître, le produit est roi. Et ensuite c'est une cuisine d'émotion et un terroir, ça c'est clair et net. Hein.
L'occasion est venue de mettre vos talents en pratique.
Une bonne huile d'olive, vinaigre de Xérès, des gros cornichons, un citron.
C'est moi la plus dure à la tâche dans cette cuisine.
12h30, 13h30.
Il y a une sauce qui vient lier le tout. Il y a du chorizo, de la courgette. Je pense qu'on n'est pas sur une petite dégustation non plus.
Qui c'est que tu essayes de séduire là, en faisant ce joli plat là?
Bah, je vais pas vous mentir, chef. Hein. C'est vous.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Hélène Darroze.
Bonjour.
Bienvenue dans le journal inattendu. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission avec la tête dans les étoiles. Grand moment lundi, votre restaurant Le Marsan a retrouvé sa deuxième étoile au guide Michelin. Comment on décroche une étoile en temps d'épidémie et surtout comment on en profite? Vous allez nous éclairer. Ces derniers mois, vous les avez aussi passés à inventer un livre de recettes tout à fait d'actualité, Chez moi. Des recettes faites à la maison avec vos filles. Il paraît d'ailleurs qu'elles vous ont surtout aidé pour les desserts. Vous nous raconterez ça. Et cette situation, comment vous la vivez? Comment vous vous réinventez? Vous nous livrerez votre regard aussi sur notre société. Dans ce journal inattendu, également un invité, votre reportage inattendu et une petite surprise. Mais d'abord, cette émission démarre toujours avec l'autoportrait. Vous avez une minute pour vous présenter. Alors Hélène Darroze, qui êtes-vous?
Alors, qui je suis? Alors, signalement, yeux bleus. Cheveux châtains, mais avec beaucoup de mèches blondes. HD, prononcé HD à l'anglaise. Française, landaise même, mais avec un peu de sang basque et aussi un pied en Angleterre. De sexe féminin, mais travaillant dans un milieu plutôt masculin. Âge, un peu plus de 50 ans. Apprend la cuisine, domicilié à Saint-Germain-des-Prés. HD, c'est comme cela que m'appellent la centaine de collaborateurs qui travaillent avec moi dans les trois restaurants que j'ai entre Paris et Londres. J'ai récemment appris que dans mon dos, il disait aussi maman, ce qui n'est pas sans me déplaire car j'ai toujours voulu que l'on forme une grande famille dont les maisons seraient mes restaurants. Maman, je le suis aussi vraiment de deux petites filles merveilleuses qui sont nées au Vietnam et que j'ai pris dans mes bras pour la première fois quand elles avaient 3 et 4 mois. Cela a été le plus beau cadeau de ma vie et être maman de ces deux-là est ce qu'il y a de plus important et de plus heureux pour moi. Quant à la cuisine, j'y ai été initiée dès ma naissance puisque je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers implantée dans les Landes. Elle est dans mon ADN, mais elle est surtout ma passion. J'ai fait mon premier gâteau alors que je savais à peine marcher et depuis, je ne cesse d'apprendre grâce à mon terroir, ma famille, mes rencontres, mes voyages. J'en ai donc fait mon métier et je pense pouvoir dire que je fais une cuisine d'auteur, de produits et de goûts qui me ressemble, qui parle de mes émotions et qui essaye de donner du bonheur aux autres.
Eh bien, maman, HD, on est ravis de passer cette heure avec vous. Et tout de suite, ce sont les grands titres de l'actualité. Couac de communication entre le ministre de la Santé et l'Académie nationale de médecine. Le premier a annoncé jeudi qu'il fallait arrêter de porter des masques artisanaux. La deuxième confirme qu'ils sont efficaces. Alors, qui croire et que faire? On vous éclaire. Le baccalauréat qui devient un contrôle continu, un soulagement ou pas pour les parents d'élèves. Il manifestait ce matin pour dénoncer un manque de moyens dans l'éducation nationale. Nous étions auprès d'eux. Dans ce journal, nous irons aussi dans les Bouches-du-Rhône à la découverte de cette initiative pour soutenir les restaurateurs. Un bus de la gastronomie. Des chefs cuisinent pour vous. Et plutôt que d'aller au restaurant, vous venez récupérer vos menus dans ce bus ambulant. La météo, c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie.
Bonjour.
On le constate depuis ce matin, il pleut sur une bonne partie de la France.
Ouais, une grosse dégradation est arrivée par l'ouest dans le courant de la nuit. Elle avance vite, on la retrouve déjà sur les régions de l'Est et du Massif central. Ça donne de la neige localement jusqu'en plaine, en Aveyron, dans le Cantal, en Lozère. Bon, c'est assez fréquent, mais les températures ont baissé, ce qui explique cela. Des chutes de neige qui vont se confirmer sur les reliefs de l'Est et du Massif central tout au long de l'après-midi. À l'arrière, plutôt des pluies, encore que les pluies se mêlent à la neige aussi en Normandie ou en Picardie à l'heure qu'il est. Le soleil, on devrait le trouver en Normandie, sur la pointe de Normandie, sur le Cotentin et sur la pointe bretonne cet après-midi, passé évidemment tous ces nuages et toutes ces pluies du matin. Les températures, elles ont baissé. 5 degrés à Rodez aujourd'hui, 6 à Paris et Besançon, 8 à Albi, 9 à Lyon, 13 à Biarritz et 15 à Nice.
Merci Valérie, on va se réchauffer avec de la bonne cuisine. On vous donne rendez-vous à 18h Valérie, oui. Parce qu'à 13h, c'est vous Hélène Darroze qui ferez la météo.
Il paraît.
On aura la météo dans les Landes évidemment.
Le journal inattendu sur RTL.
Contrôle renforcé aux frontières, couvre-feu avancé, la France fait tout pour éviter un troisième reconfinement, un troisième confinement en moins d'un an. Et la dernière mesure en date inattendue, arrêter de parler dans le métro. C'est une recommandation de l'Académie de médecine qui demande également de ne pas téléphoner dans les transports en commun, même masqués. Arrêter de parler pour ne pas propager le virus. Comment vous le prenez ? Comprenez-vous cette nouvelle mesure ? Nicolas Burnand est allé à votre rencontre dans le métro parisien.
À partir du moment où on a déjà le masque, j'ai l'impression que ça filtre déjà la plupart des particules. Il y a déjà quand même une contrainte assez importante sur la société avec les mesures sanitaires. Il faut savoir ajuster le curseur pour que ça reste vivable et que ça ne devienne pas un endroit où on est juste des robots à ne plus rien faire, quoi.
C'est très utile car je vois énormément de personnes avec le masque baissé au niveau du nez, parle fort dans le train. Toujours un plus.
Je pense que soit on dit les transports sont ouverts, vous mettez le masque et c'est bon, mais c'est maintenant, faut plus parler, plus téléphoner, etc. Ouais, où est-ce qu'on va, quoi ?
Est-ce que vous êtes prêt à vous taire dans les transports publics pour lutter contre le coronavirus ?
Oui, bien sûr. Si ça va aider, oui, je vais me taire. Je suis capable de faire toutes les concessions qu'on puisse enfin s'en sortir.
Des avis mitigés, recueillis par Nicolas Burnand pour RTL. Contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, cette semaine, l'Académie de médecine juge que les masques grand public sont efficaces, ils sont correctement portés. Comment est-ce possible que le ministre de la Santé et l'Académie de médecine disent une chose et son contraire en 24 heures ? Aurélia Valarié a joint François Bricaire, infectiologue, membre de l'Académie nationale de médecine.
Le ministre de la Santé, d'un point de vue plus strict, a raison. Il vaut mieux porter des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des masques qui sont homologués et qui sont par conséquent de qualité tout à fait indiscutable. Maintenant, au-delà de ça, beaucoup de gens avaient fait et portent des masques plus artisanaux. Il y en a sûrement de très bons, il y en a des moins bons, puis il y en a peut-être des mauvais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester probablement avec le message que ce qui est important, c'est de porter le masque et de façon tout à fait correcte. Alors, faisons en sorte d'avoir des masques homologués, et puis si vraiment il y a des gens qui ont du mal à les supporter pour des raisons diverses, eh bien au moins qu'ils portent des masques artisanaux.
Voilà donc le message à retenir avant tout. Le porter, ce masque. Les derniers chiffres de l'épidémie, un peu plus de 23 000 nouveaux cas ont été recensés hier et 323 personnes sont décédées. Les autorités scrutent surtout avec attention la propagation des variants du virus, notamment le variant anglais, désormais présent dans une soixantaine de pays. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affirmé qu'il semblait être plus contagieux mais aussi plus mortel. Enfin, sachez que 963 000 personnes ont été vaccinées à cette heure en France. Ce matin, à 11h à Paris, la FCPE, principale association de parents d'élèves, manifestait pour dénoncer la réduction des moyens et des dotations dans l'éducation nationale. Rassemblement qui intervient alors que Jean-Michel Blanquer a fait il y a quelques jours une annonce forte concernant le baccalauréat cette année. Les premières épreuves du bac sont annulées à cause de la situation sanitaire et remplacées par un contrôle continu. Qu'en pense Ghislaine, cette mère de deux élèves ? Elle est au micro RTL de Valentin Boisset.
Sur le bac en contrôle continu, il y a un énorme problème qui est l'égalité entre les différents lycées. On sait que tous les lycées notent pas de la même façon et nous ce qu'on demande c'est que ce soit encadré, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Pour certains, ils ont eu cours en distanciel ou alors ils ont dû apprendre sur des polycopiés pour la moitié du temps. Aujourd'hui, on se dit que l'État et le ministère de l'Éducation nationale en particulier délaisse nos enfants. Il faudrait que les enfants à l'école puissent trouver un répit, que ce soit un lieu où ils puissent respirer, où ils soient à l'aise et où ils aient accès à l'éducation de façon égalitaire.
Donc une maman pas rassurée, un avis partagé par les principaux syndicats d'enseignants qui dénoncent eux aussi un système inégalitaire et reprochent à certains établissements de gonfler les notes des élèves. Dans un instant, une initiative pour soutenir les restaurateurs, un bus de la gastronomie. Vous nous direz ce que vous en pensez, Hélène Darroze. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Hélène Darroze et Ophélie Meunier.
La suite de l'actualité avec cette information qui est pour vous, hein, Hélène Darroze, et pour tous les restaurateurs fortement impactés par la crise sanitaire. En ce moment, dans les Bouches-du-Rhône, un bus de la gastronomie sillonne le département. L'objectif, offrir une cuisine mobile à tous les Français en manque de bonnes tables. Différents chefs locaux cuisinent des menus variés. Il vous suffit de venir les récupérer dans ce fameux bus ambulant. Hier, il était à Allo pour le plus grand plaisir de cette cliente. Au micro RTL, d'Hugo Hamelin.
C'est là qu'on se rend compte, c'est là qu'on... Hein, c'est là que j'ai connu mon mari, moi. C'est là qu'il m'a dit qu'il voulait m'épouser, c'est là qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Ma fille a eu 18 ans au début du mois, elle n'a pas pu les fêter. Voilà, voilà, le restaurant, c'est ça.
Ça fait du bien d'entendre ça.
Bah hein. Oui, il y a tellement de choses qui se passent autour d'une table, ouais. Choses tristes ou gaies hein, d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que ça manque aux Français énormément.
Oui, hein. Ouais, finalement, quand on entend cette dame, ça confirme que le restaurant, c'est bien plus que manger. Il y avait le débat essentiel, pas essentiel.
Ouais.
Mais c'est essentiel aussi bien sûr. En partie au quotidien. On vit des moments bien en dehors de juste simplement le fait de se nourrir. Quoi.
Mais oui, mais c'est bon, voilà. Ça allait, bientôt ça va réouvrir, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Il faut tous se battre pour faire que tout revienne à la normale au plus vite.
Et sachez que le bus de la gastronomie est aujourd'hui à Arles, pour ceux qui sont intéressés. L'actualité aux États-Unis, on sait quand débutera le procès en destitution de Donald Trump. Pour ne pas entraver le début du mandat de Joe Biden, ce procès commencera dans 15 jours. L'ancien président américain doit être jugé pour incitation à l'insurrection. Donald Trump est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. S'il était déclaré coupable, il ne serait pas destitué puisqu'il a déjà quitté la Maison Blanche, mais il deviendrait inéligible, lui qui a caressé l'idée d'une nouvelle candidature en 2024. Les sports. En foot, le PSG était en forme hier face à Montpellier en cette 21e journée de Ligue 1. Les Parisiens l'ont emporté 4-0 avec un doublé de Mbappé, but de Neymar et but d'Icardi. Match à suivre aujourd'hui, 17h, Lens-Nice et Monaco affrontent Marseille à 21h. Les rendez-vous antennes, on refait le match à 18h30 suivi de RTL Foot à partir de 20h. Un mot du Vendée Globe. L'arrivée approche. Elle est prévue à partir de mercredi au Sable d'Olonne. Le suspense est maintenu jusqu'au bout. Hein, Charlie Dalin toujours en tête. Et suivi de très près par un autre Français, Louis Burton. Et puis pour tous les amoureux de sport, après deux semaines de non-parution, vous pouvez depuis aujourd'hui retrouver votre journal L'Équipe dans les kiosques. Les syndicats ont obtenu des avancées, comme éviter certains départs contraints, mais le mouvement continue, préviennent-ils. Quelle semaine pour vous, Hélène Darroze ? Vous me regardez en hochant de la tête, avec les yeux grands ouverts. Le guide Michelin a décerné lundi une deuxième étoile à votre restaurant Le Marsan. Alors dans quel contexte vous avez appris la nouvelle ? Comment vous avez réagi ? Faites-nous un peu rêver, là.
Ils m'ont pris au piège, le guide Michelin, parce qu'en fait, ils m'avaient appelé quelques jours avant pour me faire parler de mes activités, me dire on est là, on vous soutient, comment vous en sortez, entre Londres et Paris, qu'est-ce qui se passe, les différences, etc., comment vous vivez les choses, etc. Donc j'avais parlé, puis ils m'avaient dit, vous savez, ça nous intéresse beaucoup, tout ce que vous racontez, ça peut intéresser aussi. Et comme on fait une cérémonie virtuelle, puisqu'on ne peut pas faire une cérémonie physique pour la remise des étoiles, on recueille le témoignage de certains chefs et on aimerait bien que vous veniez donner votre témoignage. On enregistre tel jour à telle heure et on aimerait bien. Donc voilà, il m'avait envoyé toute une série de questions. J'avais un peu bûché et tout parce qu'il y avait des questions un peu... voilà.
Donc et puis en fait, j'arrivais pour votre,
ah oui, dans
votre
mon interview, ouais, que j'avais été sérieuse, hein, parce que je voulais vraiment faire un peu le pendant entre ce qu'il y avait entre la France et l'Angleterre.
Et l'Angleterre, ouais.
Et je suis arrivée et puis on remet un carton avec toutes ces questions, donc je suis là dans mon coin, j'essaye un peu de dire voilà, de et puis tout d'un coup, on dit on va annoncer les deux étoiles, il y en a que deux et ils sont là et là je voilà,
pas grand monde dans la salle, donc vous avez compris.
Voilà, ouais. C'est là que j'ai compris qu'il y avait peut-être et puis voilà, et puis tout s'est enchaîné et j'ai eu ma deuxième étoile.
D'ailleurs, vous avez dit, mais attendez, j'étais pas venue pour ça. C'est drôle.
Mais oui, parce que j'étais tellement surprise. J'étais tellement voilà, c'était un peu parce que bon, moi c'est vrai que chaque année, quand le guide sort, il y a toujours de l'appréhension, etc. Donc ben bon, oui. Moi, il y a des fois où j'ai vécu ça tellement avec de stress ou quoi que du coup, depuis quelques années, j'y pense pas trop, quoi. Je m'en détache et vraiment, j'étais pas dans cette idée de me dire, ah ben, peut-être que, ou quoi. Je venais pour expliquer ce qui se passait entre Londres et Paris.
Et c'est tombé.
Et c'est tombé.
Une année toute particulière, quand même. Recevoir une nouvelle étoile alors que les restos sont fermés. Déjà, expliquez-nous comment ils ont fait le guide Michelin.
Alors, moi, je sais que c'est vrai que nous, il y a au moins par
deux fois, voire trois, on est certain que,
qu'ils sont passés.
Donc, je sais qu'à Londres aussi, ils sont beaucoup passés.
Donc, c'était dans la période très courte, là où vous avez rouvert entre juin et septembre.
Il y a une fois, ils sont passés. Alors là, ils étaient quatre, dans des têtes connues du Michelin. Et d'ailleurs, il y avait un hôtelier qui était à la table d'à côté qui a dit à mon directeur de salle, vous avez vu qui c'est que vous avez joué. Ils sont passés le lendemain de la sortie du guide de l'année dernière. Ils étaient déjà là le lendemain. Ouais. Ou le surlendemain, mais dans les 48 heures. Et voilà, donc, c'est pas toujours facile, enfin, c'est évident de les reconnaître ou quoi, hein, parce que souvent, voilà. Mais là, ces fois-là, on les avait bien vus.
Et alors, comment on profite de cette deuxième étoile alors que malheureusement, votre restaurant en ce moment est fermé le
Alors, c'était difficile parce que moi, je l'ai appris. L'enregistrement avait été fait 24 heures à l'avance.
Ah, donc vous le savez depuis dimanche dernier, en fait.
Oui, pendant 24 heures, il fallait que je dise rien, quoi. Hein, j'avais donné ma parole. Donc, bon, j'ai quand même dit à mes parents et à mon frère et mes filles, parce que bon, voilà, c'était quand même difficile de garder ça pour soi. Et après, mes collaborateurs qui entendaient des bruits, parce que des bruits couraient. Bon, ben, juste une heure avant lundi, j'ai confirmé les bruits. Mais c'était assez frustrant de vivre ça un peu toute seule, quoi. C'est vrai, sans la profession, du coup, qui n'était pas là, qui n'était pas rassemblée. Et voilà, mais ça n'empêche que le lendemain, j'ai rassemblé toutes mes équipes et on a bu beaucoup de champagne.
Écoutez, vous avez bien raison. Et côté clientèle, imaginez qu'une fois que le restaurant va rouvrir, parce que ce moment-là va finir par arriver, il y aura un effet deuxième étoile après coup?
Bah, ou un peu moins, je l'espère. Je l'espère en tout cas. Je pense que quand on va réouvrir, je pense que les gens vont tellement vouloir aller au restaurant que je pense que ça, on va avoir à gérer quand même beaucoup d'envie et voilà. Et bon, ben c'est sûr qu'il faudra les gérer avec cette pression, parce que je prends pas ça comme une pression moi, mais voilà, en se disant bon ben on a deux étoiles et
puis en profiter puisque ça fait quand même un très beau coup de projecteur sur votre restaurant Le Marsan. Je resitue l'histoire. Vous aviez deux étoiles au Marsan jusqu'en 2010. En 2010, donc, vous avez perdu une étoile, regagné 11 ans après. Pendant 11 ans, on ne cesse d'y penser ou...
Non, pas du tout, non. On a perdu l'étoile à peu près quand je suis partie aussi à Londres, où j'ai vécu quand même pendant 7 ans. Et où j'ai lancé Hélène d'Arose Connaught, qui lui a eu deux étoiles quelques mois après qu'on ait perdu celle
très
de
rapidement.
Paris. Voilà,
oui.
Voilà. Donc c'est un peu presque un transfert d'étoiles. Moi, je l'ai toujours pris un peu comme ça. Non. Moi aujourd'hui, c'est vrai que les étoiles, c'est super important pour notre métier. C'est des reconnaissances qui font chaud au cœur. Et au-delà de ça, ça reste quand même le guide gastronomique qui est quand même le plus lu et suivi dans le monde entier.
Donc
c'est super important. Maintenant, moi, mon souci de tous les jours, c'est de donner du bonheur aux gens. C'est un vrai défi, c'est un vrai challenge, hein, parce que les gens viennent chercher du bonheur. Il faut être à ce rendez-vous-là, quoi. Hein, donc c'est pas facile. Et puis après, j'ai aussi des soucis économiques, quoi. Enfin, des challenges économiques, c'est-à-dire qu'il faut il faut avoir des affaires qui soient rentables pour voilà, parce que j'ai quand même la responsabilité de 120 collaborateurs derrière moi, quoi. Donc les soucis sont là, et de toujours faire mieux pour faire que ça marche, etc. Et donc c'est obligatoirement lié, toujours faire mieux, c'est obligatoirement lié avec de nouvelles étoiles. C'est toujours, mais ça n'empêche que
c'est pas non plus dans votre tête tous les jours, il faut absolument la récupérer. Non. Mais enfin, ça y est, elle est là. Dans un instant, vous donnez du bonheur aux gens aussi autrement, par le biais notamment de ce livre de recettes Chez moi. Donc, comment faire du Hélène d'Arose à la maison? On en parle dans un instant. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu d'Hélène d'Arose avec Ophélie Meunier sur RTL.
Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante.
On s'invite chez vous, Hélène Darroze, vous êtes d'accord?
Eh bien, avec grand plaisir.
Avec ce livre de recettes. Depuis un an, on passe beaucoup de temps chez nous. Alors, vous nous avez concocté ce livre chez moi. Même la fabrication du livre renvoie à ce côté fait maison. C'est un message fort que vous envoyez de vous mettre en scène, non pas dans vos cuisines, mais à la maison, avec votre fille, avec vos filles, vos deux filles. Cette aventure familiale, c'était un peu de baume au cœur pendant une période difficile.
Oui, oui, oui. Et qu'elle continue d'ailleurs un peu en ce moment. Il y a du coup un autre tome qui va sortir au printemps. Oui, là c'était automne-hiver, on va avoir le printemps et l'été. Et oui, je cuisiner pendant cette période-là, ça a été comme un peu comme un exutoire, quoi. Hein. C'est vrai que et puis voilà, après j'ai été aussi comme beaucoup de Français quand même, quoi, au-delà du fait que c'est mon métier, mais tout le monde s'est remis à cuisiner, tout le monde s'est remis à chercher les bons produits de saison, tout le monde s'est remis à partager autour d'une table. Donc voilà. Et puis donc du coup à la fin du premier confinement avec mon éditeur, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces photos que j'avais faites, et voilà, et ça a donné ce livre.
Elles s'en rendent compte, vos filles, qu'elles ont une sacrée chance d'avoir une maman Hélène Darroze à la maison, surtout en période de confinement.
Alors elles me disent,
moi je vous aurais bien pris chez moi certaines semaines pendant le premier confinement.
Là maintenant elles me disent qu'à l'école elles ont
leur menu tous les jours et tout, c'était quand même assez costaud, quoi. C'est une
je sais pas si elles se rendent compte, mais je sais que leur lunchbox à l'école font beaucoup en vue. L'autre jour, quelqu'un a dit à ma fille, si tu veux, je t'achète des gnocchis.
Oh, c'est mignon. Ça va faire presque un an. Presque un an. Comment vous tenez?
Alors moi, dès que ça a commencé cette histoire, bon pour moi c'était, je venais d'investir beaucoup, hein, puisque on avait refait Marsan de A à Z, c'était un très gros investissement. On avait ouvert Joya 18 mois avant, c'était aussi un gros investissement. Donc c'est sûr que c'est. Mais je me suis dit, il y a deux choses, quoi. Ou tu commences à stresser, et alors là c'est fichu, voilà. Ou alors, ben écoute, voilà. Hein, moi je prends les choses un peu au jour le jour, un jour après l'autre. Je me dis, et j'essaye d'être dans la confiance, là, cette fameuse philosophie du positivisme. Et voilà, et je me suis lancée dans. J'ai fait du takeaway, hein, j'ai fait de la vente à emporter tout de suite à Joya, avec des menus qui marchent pas mal. Et puis quand le deuxième confinement est arrivé, là on a lancé par contre une nouvelle activité, qui est une ligne de burgers un peu premium, hein, avec de très bons produits, qui, ma foi, se développe et marche très très bien. Et maintenant, je suis même en train de réfléchir, quand les restaurants vont réouvrir, qu'est-ce que je fais de cette nouvelle activité? Et je vais peut-être même ouvrir un petit restaurant de burgers à côté des autres, quoi, parce que ce serait dommage d'arrêter.
Des burgers dont vous faites une sacrée promotion sur vos réseaux sociaux, vous nous faites saliver. J'ai l'impression que les restaurateurs, vous avez encore plus pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, vous publiez hyper régulièrement des photos de ce que vous faites, des menus, les horaires aménagés ou pas de vos takeaways, etc. Les réseaux sociaux, le digital, là, c'est devenu essentiel en ce moment dans votre métier.
Je crois que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, hein. Oui. On a de la chance de produire des choses qui à l'image, sont très intéressantes pour les réseaux sociaux. C'est vrai que publier une photo de nourriture, de plat, etc., ça marche toujours, quoi. Hein.
Donc, du fromage qui est encore un peu fondu, qui dégouline sur le pardon, hein, mais j'ai l'image en tête. Et puis en plus, c'est l'heure, donc ça donne envie.
Non, mais voilà, c'est vrai qu'on essaye de. Moi, les réseaux sociaux, je les fais parce que je les utilise parce que d'abord ça m'amuse beaucoup, mais au-delà de ça, c'est vraiment bien sûr un outil de promotion, de communication pour nous, indéniable, quoi.
La journaliste Maria Canabal a créé une application unique en son genre. C'est la seule application qui recense les restaurants du monde tenus ou dirigés par des femmes. Ça s'appelle Parabert. Alors évidemment, vous êtes référencée, Hélène Darroze, dans cette application. Voilà, encore un step de plus dans le digital. Maintenant, on fait des applications où on met en avant les femmes restauratrices.
Le Parabéré, c'est vraiment une association qui met à l'honneur, bon, les femmes restauratrices, mais aussi les femmes sommelières, les productrices, etc. C'est formidable. Ce que fait le travail de Maria Canabal, c'est assez incroyable. De toute façon, aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et vivre avec tous les moyens de communication qui sont à notre portée, surtout quand ça, c'est pour des bonnes causes comme ça. C'est évident qu'il faut les utiliser.
Vous êtes très au fait de la situation à Londres. C'est pareil qu'en France. Et comment ça va?
Londres, c'est très difficile, hein. Là, ils sont dans un moment...
Enfin voilà, ils sont vraiment eux au pic, hein, avec avec toujours beaucoup de contamination, beaucoup de morts tous les jours, hein, parce que nous on est dans les 300, mais eux ils sont à 1500, donc c'est voilà. Ben moi je suis en rapport quasi quotidien avec mes collaborateurs, hein, et alors qu'ils continuent aussi un peu à travailler. On fait aussi, on a mis en place de la vente à emporter, mais que le week-end là-bas. Donc on parle pour faire les menus, on parle pour se donner des nouvelles, puis on parle pour de l'avenir aussi.
Donc vous arrivez quand même à continuer un peu à travailler, même pour votre restaurant.
Sur de la vente à emporter, c'est pas pour le chiffre d'affaires qu'on fait, hein, c'est surtout pour
continuer d'exister
voilà,
aussi,
ouais. Avoir un pied à l'étrier, voilà. Mais voilà, mais moi j'ai eu 12 collaborateurs malades là avec le nouveau variant, ça va très vite, et tous les jours je leur dis faites attention quoi. Et puis les restaurants sont donc fermés. Jusqu'à quand, c'est comme en France, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qui va se passer.
Comment vous vous projetez, vous y pensez à l'avenir? De moins en moins.
Écoutez, il va falloir que j'y commence. Enfin, oui, bien sûr, je me projette, mais là, il va falloir que je travaille sérieusement parce que la fin de semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec mes banquiers pour essayer de faire un point sur la situation et je voudrais leur amener un peu à des budgets prévisionnels. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire des prévisions quand on ne sait pas quand on va réouvrir, quoi. Mais
écoutez, vous avez une petite idée, une date comme ça qui vous trotte en tête, que vous espérez au moins?
Ça n'engage que moi, c'est le sentiment que j'ai moi. Enfin, en tous les cas, on va plutôt parler d'espoir que de conviction ou de je sais pas trop quoi, hein. Moi, je me dis que j'espère que pour le printemps, avec les terrasses, les beaux jours, etc., on pourra réouvrir quoi, au moins les terrasses quoi. J'espère.
Dans un instant, le rappel des titres et on parle de la place des femmes dans ce monde. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze.
13h, les titres de l'actualité. Ophélie Meunier.
Le troisième confinement est dans toutes les têtes, mais le flou persiste. On ne sait pas s'il aura bien lieu et surtout quand. Sur le sujet, discours étonnant des autorités. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, et Bruno Le Maire, ministre de l'économie, ne savent plus sur quel pied danser.
Je ne sais pas vous dire si on est au début, si on est à la moitié, je n'en sais rien encore. On est à plus d'un an. Tout le monde est épuisé, moi le premier d'ailleurs. Tout le monde en a marre. Et on s'interroge en effet, et jusqu'à quel point doit-on privilégier à tout prix la santé?
Je pense que ça pèse terriblement sur le moral des gens, que nous sommes tous épuisés par ce virus et épuisés par cette crise. L'autre raison, c'est que l'impact financier, il est très lourd pour l'économie française, il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, le fonds de solidarité, c'est 4 milliards d'euros par mois. Et un confinement coûte au minimum 15 milliards d'euros par mois. Donc ce n'est pas des décisions que vous prenez à la légère.
Jean-François Delfraissy était au micro de Yannick Collant et Bruno Le Maire interrogé par nos confrères de la Dépêche du Midi. Hélène Darroze, quand vous entendez ça, vous vous dites bah, « c'est bien, ils sont prudents, reconfinés, c'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. » Ou bien on ne sait plus où ils vont.
Bah, je crois que c'est clair, hein, quand on vous dit on ne sait pas si c'est le début, la moitié ou la fin.
Ça fait drôle d'entendre ça.
Ça fait froid dans le dos, quoi. Parce que pour moi, c'est la fin. Et puis, en fait, pour eux, ce n'est pas du tout, quoi. Donc, on est dans une espèce d'inconnu et dans un tunnel où on ne sait pas quand c'est qu'on va voir la lumière, quoi. C'est clair. Mais c'est affolant, quoi. Parce que moi, à la fin du premier confinement, on m'aurait dit qu'aujourd'hui, on serait encore dans cette situation. J'aurais rigolé, comme j'aurais rigolé en décembre l'année dernière, si on m'avait dit qu'on allait vivre en 2020, quoi.
Tous pensés et ressentis pareil. En attendant ou pas ce troisième reconfinement, les mesures sanitaires sont renforcées. Si vous devez voyager, à partir de ce soir à minuit, il sera impossible d'entrer en France sans un test PCR négatif. Mesure obligatoire y compris pour les ressortissants français qui arrivent de l'étranger. Les travailleurs transfrontaliers, en revanche, ne sont pas concernés. Sachez que chez nos voisins belges, les restrictions sont encore plus sévères. Les autorités ont décidé d'interdire à la population tous les voyages non essentiels à partir de mercredi et ce jusqu'au 1er mars. L'actualité à l'étranger, c'est également ce message d'Alexeï Navalny qui a été entendu en Russie. Les premières manifestations anti-gouvernementales et qui demandent sa libération ont eu lieu. Plusieurs dizaines de personnes ont déjà été arrêtées. Le plus gros rassemblement est attendu à Moscou à partir de 14h sur la fameuse place Pouchkine. Je rappelle qu'Alexeï Navalny est un militant politique russe anti-Poutine qui a été empoisonné en août dernier, soigné en Allemagne Allemagne, qui vient de rentrer en Russie et qui a été immédiatement arrêté. L'actualité foot, marquée par la large victoire hier du PSG contre Montpellier, 4-0. Les affiches de cette 21e journée de Ligue 1, c'est Lens-Nice à 17h et Monaco-Marseille à 21h, match à suivre en direct dans RTL Foot. Et puis les derniers arrivants du Vendée Globe sont attendus ce mercredi au Sable d'Olonne, en tête toujours Charlie Dalin. La météo, le temps à 13h, c'est avec notre invité. Alors c'est à vous Hélène Darroze, quel temps fera-t-il ce week-end?
Alors, la météo sera pluvieuse et venteuse cet après-midi de l'Aquitaine à la Méditerranée, dans le Massif central et dans l'Est, où il neigera en montagne à basse altitude. Dans l'Ouest, les éclaircies reviendront progressivement à Normandie et de la Bretagne à la Charente-Maritime. Le ciel devrait en revanche rester bien chargé du nord à Paris. Les températures iront de 4 à 16 degrés entre les Ardennes et la Corse. Il fera 6 degrés à Paris et 9 degrés à Mont-de-Marsan.
Et oui, un petit clin d'œil Hollande. L'actualité cette semaine, c'était aussi l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, première femme, qui devient vice-présidente des États-Unis. Je vous regarde, Hélène Darroze, vous avez dit qu'elle était pour vous une inspiration. Alors l'arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence des États-Unis, qu'est-ce que cela représente pour les femmes? C'est votre reportage inattendu, il est signé Brice Dugénie.
Dans les rues de Washington, en cette semaine d'investiture, le nom de Kamala Harris a écrit l'histoire. Jeune, plus âgée, noire, blanche, pour toutes les femmes, la nouvelle vice-présidente est une fierté, un exemple, un espoir. Roberta vit dans le Connecticut. La jeune femme s'engage depuis des années pour les droits des femmes.
Quand je pense à ce qu'elle fait pour les femmes, pas seulement aux États-Unis, mais les femmes dans le monde, je pense à ma fille, aux portes que ça va lui ouvrir, aux opportunités pour mes futurs petits-enfants et toutes les générations à venir. Avoir une femme à ce poste est historique. Kamala, je veux te remercier pour tous les combats que tu mènes pour les femmes et le courage qu'il t'a fallu pour devenir vice-présidente. Quel exemple incroyable. Je veux juste te dire merci, merci, merci et je t'embrasse.
Marsha Smith a le même âge, la même couleur de peau que Kamala Harris. Elle s'identifie et avec elle des millions de personnes.
En tant que femme noire, elle représente énormément de monde. Pas seulement les noirs, mais les descendants des Indiens d'Amérique, des Jamaïcains, des Indiens. J'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai été tellement impressionnée par son charisme, sa beauté, son intelligence. Et je lui ai dit, vous avez le potentiel pour devenir la première femme noire présidente des États-Unis.
Tout devient possible. Ces propos font écho à ceux de Kamala Harris le soir de sa victoire.
Toutes les petites filles ce soir doivent se dire que dans ce pays, tout est possible.
Et c'est ce qui plaît à Eric. Cela fait 13 ans qu'il vit en Californie. L'état de Kamala Harris, homme, femme, noir, blanc, lui regarde surtout les compétences.
Il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il a plus de compétences que cette femme-là aujourd'hui. Et cette femme, elle a tout. Si on se souvient un peu de l'histoire, il y a à peu près une cinquantaine d'années, les femmes ne pouvaient rien faire. Les femmes sont politiques aujourd'hui, les femmes sont médecins. C'est pas beau, franchement. Je suis chef pâtissier. L'année dernière, qui était le meilleur chef pâtissier en France ou au monde? Une femme. Bonjour Hélène Darroze, je m'appelle Eric, je suis chef pâtissier en Californie. Pensez-vous qu'une femme peut devenir présidente de la République aux prochaines élections?
Alors, quelles prochaines élections, en France ou aux États-Unis?
Ou
aux États-Unis,
France,
en tout cas.
Ou aux États-Unis, en tout cas. Ouais. Je pense que la question d'Eric, globalement, c'est de se dire est-ce qu'un jour, une femme prendra le pouvoir dans un pays?
Là, déjà, quand même, c'est un grand pas qui a été fait aux États-Unis. Parce que je pense que, déjà, le poste de vice-présidente, c'est un poste très, très important. Hein, c'est une présidence à deux. Hein, mais là, je pense que Joe Biden va lui laisser beaucoup, beaucoup de responsabilité, va vraiment la mettre sur le devant de la scène parce que c'est tout simplement pour préparer déjà ce qui se passera dans 4 ans. Et je pense que dans 4 ans, il y a fort à parier qu'elle soit présidente des États-Unis. En tout cas, il faut l'espérer parce que c'est vrai que c'est une femme que moi je trouve très très inspirante et que là je pense qu'elle va apporter dans un pays qui quand même est super divisé en ce moment, hein, plus que jamais, hein, hélas. Je pense que sur la question raciale, sur la question de la place de la femme dans la société, je pense qu'elle va apporter beaucoup 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 de choses, c'est clair.
Vous avez été très émue par le moment où elle a prêté serment là cette semaine. semaine.
Alors moi, ça fait longtemps que je suis émue, hein, parce que j'étais émue déjà quand on la voit au téléphone en train de faire. Enfin, elle fait son jogging et puis ça y est, elle va apprendre qu'elle a gagné.
We did it.
Et puis après, là, ces paroles qu'on vient dans son premier discours, une fois qu'elle a été élue, où elle dit voilà, il faut que chaque petite fille comprenne que tout est possible pour elle, quoi. Mm. Moi déjà, j'avais déjà fait un post d'ailleurs, parce que déjà je trouve que c'est des messages tellement forts pour les femmes, donc quand elle a prêté serment, je voulais absolument le voir, et je trouvais ça, c'était pour moi plus important que quand Joe Biden l'a fait lui-même, quoi, en tout cas.
Au-delà de la cuisine et des États-Unis, dans ce journal inattendu, on apprend à vous connaître. Vous admirez donc Kamala Harris, et côté cinéma, eh bien vous aimez ça, grand classique. Pretty Woman, c'est un de vos choix cinéma,
oui,
aujourd'hui.
Parce que c'est un film gay, optimiste, c'est dansant. On l'a regardé, je l'ai fait découvrir à mes filles il y a pas si longtemps que ça, là, pendant les vacances de Noël. Et voilà, quoi, c'est de la fraîcheur. C'est une histoire qui finit bien. C'est tout ce qu'on aime, quoi. Voilà, quand il fait gris comme aujourd'hui, c'est bien.
Une belle comédie romantique. Dans un instant, votre invité sera avec nous, Hélène Darros et Arnaud Daguin. On parle écologie et cuisine responsable. À tout de suite sur RTL.
RTL, le journal inattendu.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Demain sur RTL, c'est le début d'une semaine consacrée à l'écologie, la semaine Green. De nombreux programmes seront consacrés au respect de l'environnement. Vous pouvez réagir et partager d'ailleurs vos commentaires sur les réseaux sociaux avec le hashtag Semaine Green. Hélène Darros, votre invitée est un chef cuisinier qui se bat pour que nous changions notre rapport à l'alimentation et à la culture alimentaire. Bonjour Arnaud Daguin, merci d'être avec nous.
Bonjour Ophélie, bonjour Hélène.
Salut Arnaud.
Alors, ce qui vous rapproche avec Hélène Darros, c'est votre passion et votre amour pour la cuisine. C'est une histoire de famille pour tous les deux. Arnaud Daguin, puisqu'on va rentrer dans une semaine consacrée à l'environnement sur RTL, l'enjeu, j'y vais direct, hein, l'enjeu est de mieux prendre soin de notre planète et mieux protéger l'environnement. Quel est aujourd'hui le nœud du problème concernant l'alimentation, l'agriculture, la production de nourriture ?
Ah ben l'enjeu, il est effectivement très très clair, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de notre avenir à tous sur cette planète. Voilà, donc il faut considérer l'agriculture pour ce qu'elle est. Vous savez que quand on s'intéresse à la cuisine et à la question qu'est-ce qu'un bon produit, que Hélène connaît très très bien comme question, eh ben on est obligé immédiatement de s'intéresser à la façon dont on produit notre alimentation, et ça s'appelle l'agriculture, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, nous avons à considérer ce qu'est l'agriculture vraiment, au sens planétaire, hein, du terme, et comment on peut faire pour que cette agriculture soit idéale, c'est-à-dire nous donne à manger à tous, et y compris nos bêtes, mais aussi soit auto-fertile, c'est-à-dire nous enlève cette dépendance au pétrole et aux grosses machines et tout ça, et puis aussi nous fasse du matériau, de l'énergie, bref, l'agriculture de rêve, c'est l'agriculture qui nous permet de vivre même à 10 milliards sur une terre qui nous nourrit, qui nous abrite, qui nous transporte, qui nous fait des vêtements, vous voyez, c'est aussi simple que ça, et à la fois c'est très compliqué quand on le prend de là où on est aujourd'hui. Mais on sait maintenant, partout sur la planète, on le sait vraiment, parce que on a des retours d'expérience, parce que tout le monde avance dans le même sens, on sait que, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé notre association pour une agriculture du vivant, c'est en travaillant avec le vivant qu'on va y arriver. Et du coup, on a repéré, c'est pas un nœud, mais c'est plutôt 5 grands points que tout le monde peut prendre aujourd'hui, que toutes les agricultures doivent prendre et s'emparer de ces sujets-là. C'est le carbone, c'est l'eau, c'est la biodiversité, c'est la qualité des aliments, évidemment, la qualité nutritionnelle, et la clé de tout, c'est le bonheur à la ferme. Voilà.
Que nos agriculteurs et nos paysans soient heureux dans leur travail et dans leur quotidien.
Mais heureux et reconnus et honorés comme nous rendant d'immenses services, et pas seulement nous nourrissant, mais stockant du carbone dans les sols et le capturant dans l'atmosphère où il y en a trop, mais fabriquant des sols agricoles qui sont capables de filtrer de l'eau et de la stocker en masse, parce que nous allons avoir besoin de mieux régir les abats d'eau qui vont devenir de plus en plus violents. Produire de la biodiversité, parce que c'est le moteur de la fertilité, c'est des pratiques agricoles qui produisent de la biodiversité. Et la biodiversité, c'est d'abord, pour commencer, dans les sols. C'est les micro-champignons, c'est les micro-filaments, c'est les bactéries, c'est les petites bestioles et les vers de terre. Et c'est ça qui fait le moteur de la fertilité.
Hélène Darroze, quelle relation vous entretenez, pour rebondir sur le bonheur à la ferme, quelle relation vous entretenez avec les producteurs chez qui vous vous fournissez?
Moi, elle est quotidienne. D'abord, c'est une relation très loyale. Hein. Moi, en général, je travaille même avec des producteurs qui travaillaient déjà avec mon grand-père. Donc, vous voyez, donc elle est très loyale parce qu'il n'y a pas de raison de changer quand justement le produit est bon et qu'il est produit ou élevé ou même transformé dans le respect de ce que vient de dire Arnaud. Quoi, hein. On pourrait l'entendre parler des heures, Arnaud, parce que c'est tellement intéressant et tellement vrai tout ce qu'il raconte que voilà. Il faut qu'aujourd'hui, chacun se sente concerné par ce qu'il mange et comment c'est arrivé dans l'assiette.
Vous avez pris des décisions ces dernières années pour essayer de rendre votre cuisine encore plus éco-responsable?
Oui. Oui, oui, des certaines décisions qui m'embêtent un peu. Hein. Par exemple, à Londres, je cuisinais du poulet jaune des Landes. Ben, j'ai pris il y a quelques mois la décision de regarder ce qui se passait sur le sol anglais et de voir si on pouvait pas trouver un produit qui correspondait aussi à ce que je voulais avoir dans l'assiette et éviter de transporter.
Y compris, vous passez d'un produit qui est central dans votre cuisine, le poulet des Landes.
Oui, sauf que je peux toujours le cuisiner à Paris, donc ça
ouais,
va.
Ça va. Enfin, pas à Londres. Le menu idéal, Arnaud Daguin, d'une semaine, c'est quelle proportion de viande, de légumes, de poissons, de céréales?
Bon, c'est à la fin du mois ou de la semaine que ça se calcule tout ça. Si on veut manger une belle volaille à un moment donné, mangeons une belle volaille, mais mangeons moins de protéines animales les autres jours. Vous voyez, c'est cette proportion-là, globale, qu'il faut qu'on commence à... Vous savez, ça fait pas si longtemps que ça qu'on mange autant de viande dans nos pays développés. Ça fait 100 ans, 150 ans qu'on mange autant de protéines animales. Autrefois, c'était réservé évidemment aux gens qui avaient beaucoup les moyens et ils en mouraient très régulièrement parce qu'ils en mangeaient trop. Mais c'est vrai que si on regarde les menus et la façon de s'alimenter pendant les décennies et les siècles qui ont précédé, la part de protéines animales, elle est toujours très raisonnable. Mais il y a un signe qui peut nous donner une idée de ça. Regardez, nous avons 32 dents, nous les humains. Sur 32 dents, nous avons 4 canines. C'est-à-dire qu'en fait, un huitième de notre râtelier est fait pour déchiqueter de la viande. Ça devrait nous donner un signe, ça. C'est quand même quelque chose qui peut parler de proportions, vous voyez.
Rééquilibrer les proportions. Voilà, si on peut retenir un conseil à mettre en application assez facilement hein, et tout de suite, c'est faire attention aux proportions dans nos assiettes. Merci Arnaud Daguin d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que le lancement de la Semaine Green sur RTL, c'est demain et donc c'est jusqu'à dimanche prochain pour une vie plus éco-responsable et donc pour une cuisine aussi plus éco-responsable. Dans un instant, une petite surprise pour vous, Hélène Darroze, restez avec nous, c'est le journal inattendu. À tout de suite sur RTL.
Le journal inattendu d'Hélène Darroze
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Cette année, les défis culinaires sont déments.
Le petit risque que je prends, c'est de vous faire manger de l'oignon en dessert.
Je vais faire une rillette de maquereau chocolat blanc.
Mais non, taré.
Ils sont barrés cette année.
Voilà, c'est ça.
Qui saura le mieux repousser les limites de la gastronomie?
C'est quand même plutôt génial.
C'est un plat intelligent, gourmand et intelligent.
Après 12 ans, ils arrivent encore à nous étonner. C'est complètement dingue.
Le 10 février, lancement de la saison 12 de Top Chef. Vous êtes une des jurées historiques. Vous prenez toujours autant de plaisir, Hélène Darroze, à faire cette émission?
Ah oui, beaucoup, sinon j'arrêterai. Et cette année encore plus, parce que ben, voilà, un des avantages de la fermeture des restaurants, ça a fait que j'ai pu me dédier complètement au tournage de Top Chef, qui n'a pas été facile, hein, parce qu'avec toutes les
contraintes sanitaires,
les contraintes sanitaires, c'était
évidemment
pas facile, voilà. Ouais. Mais sinon, c'était, voilà, j'étais là-dedans à 100%, et du coup, c'était génial. Et
alors, à quoi s'attendre? Un petit truc marquant, là, le tournage est terminé, vous savez comment ça s'est passé, une petite coulisse étonnante.
Bah, il y a beaucoup de choses, hein, comme d'habitude, on va rire, on va pleurer, on va s'émouvoir, etc. Mais moi, ce qui a vraiment marqué cette saison-là, ben, c'est les conséquences, justement, un peu de la crise sanitaire, c'est que les candidats, on a dû les isoler 15 jours avant le tournage, ils ont été confinés dans un hôtel ensemble pendant 15 jours. Donc en fait, c'est devenu un groupe de copains assez fort, inséparable, etc. Et vous allez voir ce sentiment de fraternité, de cette amitié, elle se ressent tout au long de la saison et du coup, enfin vous allez chaque fois que un part, c'est un crève-cœur, ils sont là à s'entraider. Vraiment plus que jamais, c'était un groupe de copains assez incroyable et je pense que ça va se voir à l'écran.
Saison 12 de Top Chef à partir du 10 février, donc sur M6. Une petite surprise était promise, elle est là, il vous connaît bien, on ne le sait pas forcément, mais c'est un grand amoureux de la cuisine et au fourneau, je peux vous dire qu'il se débrouille vraiment pas mal du tout. Bonjour Laurent Delahousse.
Ah. Bonjour Hélène.
Salut Laurent.
Merci d'être avec nous, votre parole est rare hein, dans les médias. Vous acceptez de prendre ce petit moment pour Hélène Darroze. Alors un grand merci avant tout. Vous êtes amis tous les deux et vous partagez ce grand grand amour pour la cuisine. Hélène Darroze, vous confirmez à nos auditeurs que Laurent est aussi bon en cuisine qu'au 20h?
C'est un très bon cuisinier, c'est un grand gourmand et un très bon cuisinier qui cuisine beaucoup et avec beaucoup d'amour surtout hein, c'est...
Laurent Delahousse, qu'est-ce qui vous plaît dans la cuisine d'Hélène? Qu'est-ce qui vous a séduit la première fois que vous avez goûté un plat d'Hélène?
Je vais d'abord vous dire que j'aime la femme, ouais. J'aime la maman, j'aime la cuisinière et j'aime l'ami. Vous savez, à partir d'un certain âge, on attend des choses de plus en plus simples de ceux qui vous entourent et on s'encombre un peu de moins en moins des personnes toxiques. Hélène, c'est l'inverse. C'est une énergie, c'est une combattante, c'est la bienveillance. Et vous savez que c'est pas donné à tout le monde, la bienveillance, surtout dans ces temps mouvementés et tourmentés. Elle trouve toujours l'équilibre. En fait, je trouve, entre l'investissement qu'elle a, qui est incroyable, sa quête de l'excellence, des étoiles, on peut s'y perdre, vous savez. On peut chuter, on peut se relever encore et encore. Et ça, c'est Hélène. Mmh. Et puis, quand vous vivez un métier de passion, faut trouver l'équilibre entre son travail, ses enfants. Je la connais, donc je sais quelle maman elle est aussi, et trouver cet équilibre entre Top Chef, entre Marsan. D'ailleurs, je la félicite parce que cette deuxième étoile, c'est merveilleux. Ouais. Voilà, je trouve que c'est incroyable parce que je sais ce qu'elle peut traverser, ce que ça a été de ce combat, de cette quête d'excellence, d'avoir un restaurant au cœur de Paris, d'en avoir un autre, d'avoir, comme vous le disiez à l'instant, et on vient d'en parler, de Top Chef. Et puis voilà, et trouver cet équilibre et rassembler tout cela en restant ce qu'elle est, c'est-à-dire bienveillante et toujours dans la quête de se remettre en question, de retravailler le produit, de trouver la bonne recette, de trouver le bon équilibre, la décoration de ce restaurant, d'être bien entouré. C'est un travail de dingue être chef aujourd'hui. Et je pense à tous les autres aussi aujourd'hui, les petits comme les grands d'ailleurs.
D'ailleurs, justement, cette situation asphyxiante que vivent les restaurateurs, une profession courageuse et combative, vous en parlez très régulièrement dans vos journaux, Laurent Delahousse. Quel est votre message, vous, en tant que personne et sûrement consommateur de ces bonnes tables de temps en temps, pour tous ces restaurateurs qui n'ont qu'une hâte, c'est de se dire « ça y est, c'est terminé, on peut rouvrir et faire notre métier comme avant ».
Oui, j'ai envie de leur dire qu'on pense bien évidemment tout le temps à eux, que c'est un métier très particulier. J'entendais Pierre Gagnaire l'autre jour et il en parlait très bien. L'idée de ces cuisines qui sont des lieux absolument dingues de vie, l'énergie qu'il y a dans une cuisine, quand vous passez dans une cuisine de grand ou de moyen ou de petite brasserie, c'est une énergie de dingue. Et aujourd'hui, ces cuisines, elles sont devenues rempli de fantômes dans les salles, avec ces fauteuils qui sont les uns sur les autres, ces tables vides. C'est quelque chose qui est extrêmement perturbant et troublant psychologiquement. Et puis, il y a bien évidemment cette pression financière. Ce sont des investissements dont on ne sait pas si finalement ils vont pouvoir rebondir. Donc, ils sont tous dans des situations extrêmement précaires, parfois dramatiques, avec des jeunes qui sont installés, qui ont été voir des banques pendant des mois et des mois pour investir, pour créer des choses, pour décorer son restaurant, et aujourd'hui qui se retrouvent dans des restaurants vides, sans savoir si véritablement dans une semaine, 15 jours, 3 mois, 4 mois, 5 mois, les choses vont reprendre. C'est une situation très difficile. Mais ça n'empêche pas que je trouve que les Français sont magnifiques dans cette période, depuis le début de cette crise. Et on le ressent, nous, vous, assis dans ce fauteuil en présentant le journal, et nous, en présentant le journal de 20h. C'est une situation particulière de s'asseoir régulièrement en se disant, bon, moi, je vais encore annoncer
des mauvaises nouvelles.
Donc, c'est parfois compliqué.
Merci Laurent Delahousse, merci pour ce message qui fait du bien et pour cette petite surprise, ce petit moment pour Hélène Darroze et de vous avoir entendu.
C'est une belle surprise.
Non, merci à vous. Et on aura des jours meilleurs. C'est ce que je dis aux auditeurs d'RTL et aux Français. On aura des jours meilleurs et on a très confiance en nous tous. Voilà.
Et bon journal. On vous retrouve ce soir à 20h sur France 2.
La ligne passe bien entre France 2 et RTL. Vous voyez, je suis dans mon bureau et j'entends.
Visiblement, on le constate.
Tout se passe bien.
Je
vous embrasse et à très bientôt.
On vous embrasse aussi. À bientôt. Et merci, chef. Merci Hélène Darroze. À la tête du Marsan doublement étoilé au guide Michelin. Et votre livre de recettes chez moi, disponible aux éditions du Cherche Midi, édition automne-hiver et donc bientôt édition printemps-été. Toutes les émissions du journal Inattendu sont à redécouvrir sur l'application RTL. Tout de suite, c'est Confidentiel présenté par Jean-Alphonse Richard, numéro consacré à Nadia Comaneci. La semaine prochaine, mon invité, Guillaume Musso. Très bon week-end à tous sur RTL et à samedi prochain, 12h30.
Le journal inattendu sur RTL. RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Alain Souchon chante Dalida, Vanessa Paradis France Gall, Johnny Alain Bachung. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.